Vous m'engagez alors, c'est bon ?
Je vous engage.
Bon.
Interview. 1. Terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du docteur Hugues Rennes, gynécologue obstétricien, mais visiblement spécialiste de l'amour. C'est là que je dois le dire. Bonjour docteur.
Bonjour.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Eh bien d'amour et de sexe peut-être.
Allez.
Ça va ensemble.
Par quels moyens vous pouvez amener ce sujet qui nous intéresse tous ?
Oh ben d'abord par ma spécialité, hein. C'est évident que la sexualité est une de des choses que je développe à côté de la parentalité, à côté de la grossesse, à côté de la ménopause aussi. Donc toutes ces périodes de la vie d'une femme sont des choses qui font partie un peu de ma profession. Et puis je dirais que je me suis interrogé surtout à partir des aspects psychiques, parce que toute la partie technique elle est très connue, mais toute la partie de la vie intérieure, de la vie psychique, de l'expérience en ce qui concerne la sexualité, c'est extrêmement intéressant d'aborder ce sujet avec la neutralité nécessaire, parce que on est toujours un peu plus, comment dire, un peu moins tranquille avec la sexualité qu'avec les autres fonctions. Si je vous parle de la respiration, vous allez dire, bon, il est gentil le docteur, il va me parler de la respiration. Si je vous dis, on va parler de sexe, ça ne fait pas tout à fait le même effet. Alors, c'est déjà intéressant.
À votre avis, à quoi est-ce dû ?
Alors ça, c'est dû à quelque chose qui est très important de comprendre, c'est la façon dont nous sommes construits psychiquement. C'est-à-dire que la façon dont nous sommes construits, depuis notre naissance d'ailleurs, puisque je m'occupe aussi de la naissance, elle est passée par des chocs, et différents chocs, dont celui de la sexualité, on va dire, mais surtout celui du plaisir-honte. C'est-à-dire qu'en nous, il s'est inscrit à une période très précise de la vie que le plaisir, en même temps c'était bon, en même temps c'était pas si simple. Et, voilà. Et donc on est en même temps attiré par le plaisir et en même temps un peu réticent, comme si la honte était attachée à cette... Et pas simplement pour des raisons judéo-chrétiennes, mais pour des raisons de construction psychique.
Vous pouvez développer, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs.
Oui, alors c'est très intéressant, parce qu'on pourrait se dire, c'est dommage, parce que quand l'enfant est dans le plaisir c'est tout, c'est une seule chose, il n'y a pas d'ambiguïté dans le plaisir, c'est tout, c'est bon, point. Et pourquoi ce qui est bon serait entaché de honte ? On pourrait se demander pourquoi la vie construit ça comme ça. Mais il faut comprendre que si c'est construit comme ça, c'est que ça a un sens. Et en fait, pour l'enfant, le plaisir, c'est son plaisir. Et il va découvrir dans un des traumatismes, donc traumatisme du plaisir-honte, que son plaisir a fait mal à l'autre. Tout ça parce que son papa ou sa maman n'était pas très tranquille avec ça et parce qu'il a fait quelque chose qui est répréhensible du point de vue de la morale, sans le savoir d'ailleurs. Et depuis ce jour-là, il a reçu ce choc. Et quel est l'intérêt de cette chose-là ? Parce que, comme je disais, on pourrait penser que c'est quelque chose de négatif et ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'à partir de là, nous aurons du plaisir si ce plaisir fait du bien à l'autre. Alors qu'avant, on a du plaisir et on se fiche de l'autre, je dirais. L'enfant n'a pas la notion de l'autre. Et parce que tout d'un coup, on est obligé, pour aller dans notre plaisir, tout en respectant cette honte, de dire « alors je peux avoir tout mon plaisir si je fais attention que l'autre ait aussi du plaisir ». Alors que dans notre histoire traumatique, douloureuse, notre plaisir a fait du mal à l'autre.
Donc moi, effectivement, je suis maman aujourd'hui, mais avant tout, j'ai été enfant. D'ailleurs, j'en suis encore une... Bien grande, mais toujours. Et j'ai des souvenirs, et puis des souvenirs d'enfant, mais je vais évoquer mes souvenirs de maman. C'est-à-dire que, comme tout enfant, ma fille est passée par le fait de se toucher, de se tripoter.
Bien sûr,
Et là, à moi de lui dire que c'est très bien ce qu'elle fait, mais je l'accompagne dans sa chambre parce que c'est un moment pour elle. Quel conseil donneriez-vous à tous les parents qui nous écoutent ?
Tout à fait. Alors, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout la masturbation qui a été longtemps le diable et qui a posé beaucoup de problèmes justement dans l'approche du plaisir avec beaucoup de honte. Elle est quelque chose de naturel, de normal. C'est comme ça que l'enfant découvre le plaisir et tout le monde sait que maintenant, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas diaboliser, qui est tout à fait naturel. De là à encourager l'enfant à se masturber devant tout le monde, une autre chose. Et je crois qu'en effet, il faut dire à l'enfant, il y a des choses qui appartiennent à l'intimité et qui se font dans l'intimité. Tu fais ce que tu veux dans ta chambre, mais quand tu sors, dans les relations humaines, ça ne se fait pas. Voilà, donc je crois que vous avez la réponse.
Quelles conséquences pourraient amener une réaction négative face à la masturbation de son enfant ?
Bah, écoutez, moi je l'ai vécu puisque je suis d'une époque où c'était le diable, comme je disais tout à l'heure, ou presque, où c'était accusé de tous les maux. Et je crois que ça n'a pas, ça a eu un seul impact, c'est que je me suis dit à un moment, je vais parler de moi d'abord, hein, je veux dire, je me suis dit à un moment de ma vie, assez jeune, je me suis dit, mais comment se fait-il que ce soit aussi bon et que ce soit en même temps aussi mal. Donc il faut que je comprenne cette opposition entre cette chose que je trouve bien, que je trouve bonne, et puis cette idée que c'est mal. Alors, je pense que nos enfants auront moins de problèmes que nous, c'est-à-dire votre fille, comme mes enfants à moi, ma fille et mes garçons, ils seront un peu plus tranquilles que nous, et ils auront moins de difficultés à rentrer dans approcher la sexualité de façon plus neutre. Vous savez, moi, quand je me dis que je vais parler de la sexualité, alors la réaction, c'est... Ah non, mais moi, tout va bien. Hein. Non, mais moi, je n'ai pas besoin. Oui, bien sûr, mais tout le monde va très bien, on le sait bien, d'ailleurs. Mais moi, je suis obligé de vous dire que, puisque c'est mon métier, dans mon cabinet, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas si simple que ça, la sexualité pour personne. Ce n'est pas simple pour moi non plus. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec la sexualité, ça n'existe pas. Alors après, on se débrouille tous comme on peut. Mais je pense que ce qu'on essaye de développer plutôt, ce que j'essaye de développer, c'est l'idée que si on comprend mieux comment fonctionne cette fonction, comment ça marche, eh bien, on peut mieux en profiter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on ne va pas bien, qu'on va bien, qu'on est... Non, non, on fait tout ce qu'on peut avec. Mais peut-être que si on comprend mieux comment ça marche, les paramètres, on peut mieux en disposer. Si vous voulez, j'aime bien donner un exemple pour faire comprendre ça. C'est-à-dire que dans l'alimentation, vous pouvez manger rapidement, je ne sais pas s'il y en a dit, ou bien manger un sandwich et une bière. Bon, tant mieux s'il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas une bonne publicité, mais tant pis. Vous ferez ce que vous voulez au montage.
Je l'inverserai.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut manger pour se nourrir. Et donc, ça comble la faim. Et puis on peut manger parce qu'on sait ce qu'on aime et on déguste des choses qu'on aime. Et puis on peut expérimenter des choses qu'on ne connaît pas bien et qu'on veut déguster et découvrir. Et puis on peut aussi partager. Si vous reprenez cette analogie pour la sexualité, c'est exactement ça. Et le seul problème qu'il y a, c'est qu'on se contente un peu trop de la dimension la plus première, c'est-à-dire finalement combler sa faim, ce qui veut dire combler cette tension sexuelle. Et puis une fois qu'on l'est comblé, bon, ça va, on est détendu. Alors qu'il y a d'autres dimensions de dégustation, de rencontres qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement élevées, qui donnent beaucoup plus de plaisir. Et j'allais dire, disposer de ces paramètres librement, c'est ça. Qu'on essaye de développer. C'est, ben voilà, on peut un jour manger vite fait parce qu'on est pressé, faire l'amour vite fait parce qu'on a, voilà, on a juste envie de s'amuser comme ça. Et puis des fois, on a envie de déguster, de faire un grand repas, de partager. Et donc, on devient plus inventif, plus envie de déguster, quoi.
Et pour le coup, j'ai envie de dire que jouir de sa sexualité, c'est finalement ne pas jouir.
Alors, pas tout à fait quand même. Il y a un moment où il faut que ça se conclue. Hein. On ne peut pas rester devant le sandwich des heures. Ben, au moins, il faut qu'on mange. Par contre, c'est vrai que ça touche... quelque chose qui, pour moi, est différent entre le plaisir de la femme et le plaisir de l'homme. C'est-à-dire que, là, je vais faire une petite digression avant de répondre à votre question, d'essayer de répondre à votre question. C'est que quand on a un sexe, homme ou femme, on a en même temps une grammaire du plaisir. Je dirais que dans l'embryologie, il y a un moment où il y a une détermination du sexe. Et qu'à partir de là, c'est comme si, c'est l'image que je prends, c'est comme si la vie avait déchiré le livre, la grammaire du plaisir en deux, avait donné une partie à vous, une partie à moi, une partie aux hommes, une partie aux femmes. Et puis à partir de là, elle avait remis une couverture de chaque côté. Ce qui fait que chacun croit avoir l'ensemble des modalités du plaisir. Et on est sûr qu'on sait faire. Moi, je suis sûr de connaître, enfin maintenant moins, mais je pensais connaître ce que c'était que le plaisir. Et la femme aussi. La seule chose, c'est qu'on n'a pas la même grammaire, enfin on a des grammaires complémentaires. Et comprendre comment marche le plaisir féminin, comment marche le plaisir masculin, ça permet de mettre les deux grammaires ensemble et donc d'avoir beaucoup plus de plaisir puisqu'on a l'ensemble de la grammaire du plaisir. Et quand vous disiez peut-être un peu en boutade, c'est attendre, c'est repousser le plaisir. Alors c'est quelque chose qui est absolument vrai, surtout pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans sa grammaire du plaisir, dans sa biologie même, je dirais, il a un plaisir rapide. Lui, il est toujours un peu plus chaud que la femme sexuellement. Et c'est pour ça que c'est lui qui incite la cour. C'est lui qui fait la cour, puisque c'est lui qui a le premier, qui est informé de ce désir. Donc lui, c'est vrai que s'il veut vraiment avoir du plaisir, il faut qu'il diffère son plaisir. Je dirais là, de façon simple, pour régler un problème qui est assez blessant pour les hommes, c'est qu'on dit d'un homme, il est éjaculateur précoce. Ça n'existe pas. C'est un homme qui va dans une sexualité rapide, simple, et qui ne cherche pas à se dépasser et à prolonger et avoir, comme vous le disiez, plus de plaisir en retardant son plaisir. En ce qui concerne la femme, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle, elle a dans sa biologie quelque chose qui est moins excitable et qui prend un peu plus de temps et qui nécessite d'être plus habile et de plus, je dirais que l'homme doit se refroidir, la femme doit se réchauffer. Et j'allais dire que on voit bien que même dans notre société, les choses sont faites dans cet ordre-là, puisque l'homme adore regarder la femme et la femme adore être regardée par l'homme. Et d'ailleurs, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on vous regarde. Et vous êtes assez habile, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, donc, vous, ça vous plaît et donc ça vous monte en température. Et nous, ça nous plaît de vous regarder tout en restant à distance, donc en gardant notre plaisir à distance.
Vous parliez de sexualité féminine, de sexualité masculine. Vous venez d'évoquer les principales différences. Et quel conseil, justement, aujourd'hui, aux hommes et aux femmes, vous pourriez leur donner?
Je crois que le conseil, c'est surtout essayer de comprendre comment ça marche et de se mettre ensemble, puisqu'on n'a pas la même grammaire, on n'a pas les mêmes données de départ. Et je crois que justement, dans la rencontre hétérosexuelle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rencontre un autre monde. Un autre monde qui nous attire d'ailleurs, mais qu'on ne comprend pas. Et pas que sexuellement. C'est-à-dire que les femmes pensent d'une certaine façon, voient le monde d'une certaine façon. Plus loin que la sexualité, je parle là. Les hommes pensent d'une certaine façon, voient le monde d'une certaine façon. Et là aussi, nous avons besoin de cette complémentarité. Et pour aller beaucoup plus loin que la sexualité, je vous dirais que dans notre société, cette société, pour des raisons historiques, pour des raisons qu'on ne va peut-être pas aborder maintenant, elle a été plus gérée par l'homme. Et que la femme manque cruellement. Elle manque dans deux endroits. Elle manque dans la sexualité, parce que pour l'instant, le plaisir de la femme, il commence à exister depuis 68. Vous n'y étiez peut-être pas, moi oui.
Non, mais j'en profite.
Voilà, vous avez raison. Et je dirais que le plaisir de la femme, c'est l'avenir du plaisir de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme doit avoir plus de plaisir, c'est parce que la femme aura plus de plaisir. Et ça va, en même temps, ça fait un peu peur aux hommes, mais en même temps, c'est vraiment leur avenir. Et je dirais que dans la politique et dans la conception du monde, dans la perception de la vie sur Terre, du monde, la vision, la perception de la femme et les actions de la femme manquent cruellement. Autrement, le monde ne pourrait pas être comme il est. Donc, il manque la femme actuellement. Vous êtes là, mais il faut que vous avanciez encore plus.
On arrive.
En complémentarité et pas du tout en opposition, comme on a pu l'entendre à certains moments, parce que ça, c'est dommage de s'opposer alors qu'on a envie de se rencontrer.
Tout à fait. Vous parliez de relations hétérosexuelles. Que pensez-vous de la relation homosexuelle ?
Écoutez, alors, c'est un fait, donc on ne peut pas nier les faits. Et elle existe, elle est respectable, elle appartient à l'histoire de chacun. Et je dirais que de la même façon que les hétérosexuels doivent essayer de mieux profiter du plaisir, les homosexuels doivent aussi déguster leur plaisir à leur façon. Et que c'est comme ça, c'est un fait. La vie présente toujours une grande diversité. Et à l'intérieur de cette diversité, dans la sexualité, il y a l'homosexualité, qui appartient de toute façon à l'histoire personnelle de chacun, et chacun doit respecter son histoire personnelle.
Jusqu'à il y a quelques années, l'homosexualité, comme toutes les autres formes de sexualité, je ne sais pas si on peut dire forme de sexualité, était considérée comme une maladie quand même.
Tout à fait, oui.
Et elle était traitée.
Ah ben oui, avant. Mais c'est-à-dire, on était dans une période très moralisante. Où...
Et aux États-Unis, c'est encore le cas.
Oui,
hein.
Oui, oui.
C'est triste, mais bon. Allez, par quels moyens vous allez aider ces hommes et ces femmes à s'accorder ?
Ah ben écoutez, alors d'un point de vue concret, nous, je suis venu un peu pour ça. On va faire une soirée d'information sur la région, donc le 6 décembre. Et puis j'en fais aussi une autre soirée d'information à l'Aube, donc le centre dont je m'occupe, qui est à Pigros-la-Classe, à côté de Cré. Donc on fait des soirées d'information pour expliquer un petit peu aux gens, voilà, écoutez, voilà, nous, ce qu'on peut essayer de vous apporter, puis de discuter avec eux. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut proposer même des cycles d'information plus complets, où chacun peut aussi, dans l'intimité de sa relation à lui-même et non pas avec nous, faire le point de sa sexualité, voir ce qui lui manque, poser des questions s'il le souhaite, mais dans un très grand respect de l'intimité de chacun, bien évidemment.
nerveuse, je viens. Et je viens entre tes reins et je me tiens.
Je me suis permise de faire quelques petites recherches sur vous. Alors, 20 minutes, hein, pas plus. Ne vous en faites pas, je n'en sais pas beaucoup. Et voilà, effectivement, j'ai sous les yeux un programme de ces stages que vous venez d'évoquer. Il y a le point de vue théorique et il y a le point de vue pratique. Le point de vue théorique, vous parlez plaisir féminin et le plaisir masculin, de grammaire complémentaire. Les quatre niveaux de plaisir sexuel.
J'en ai parlé très rapidement, mais je vais vous le dire sous une autre façon. C'est-à-dire que nous sommes construits à partir de tout ce qui nous a précédé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la vie sur Terre, elle a commencé par du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain. Et que nous sommes au tout début de l'humain, si on regarde du point de vue temps historique même, on est très très jeune par rapport au monde animal et par rapport à cette grande histoire. Et cette grande histoire, elle nous a donné un certain nombre de cadeaux, de données, de bases. Et je dirais que pour la sexualité, le fait que la sexualité soit reproductive, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, elle a été inventée par le végétal. Et d'ailleurs, maintenant, on peut s'en séparer. L'humain est celui qui, la première espèce à pouvoir séparer le plaisir de la reproduction. Il y a eu des pas, ça a été lent, mais maintenant, c'est comme ça. Donc, la dimension reproduction, elle appartient au monde végétal. La dimension animale, c'est ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure rapidement, c'est la dimension je comble ma faim. C'est-à-dire que j'ai faim, je mange, et voilà. Donc, il y a une espèce de pulsion, on va combler la pulsion, et après, on est juste détendu. Mais ça ne donne pas beaucoup de plaisir. Et puis, il y a une dimension qui appartient à l'humain, qui est spécifique de l'humain, c'est la dimension de mon plaisir. C'est-à-dire que la première chose que je dois faire en tant qu'homme, c'est connaître ma grammaire quand même. En tant que femme, vous connaître la vôtre. Moi, je dois respecter la mienne, vous devez respecter la vôtre. Et à l'intérieur de ça, vous avez, vous, des goûts particuliers en matière de sexualité, différents de vos amis, de femmes, j'entends, et moi, j'ai des goûts personnels différents des autres hommes. Et donc, la première chose, c'est respecter ses goûts à soi, ses modalités de plaisir à soi, mais dans le respect de l'autre, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure. On a toujours un œil sur l'autre dans la sexualité. Ce que je peux me donner comme plaisir, il doit toujours produire du plaisir à l'autre. Autrement, c'est une impasse, c'est une base de la grammaire. Ça, c'était la première dimension humaine. Et puis, il y en a une autre, au-delà de ça, c'est l'humain, il aime bien se dépasser. Il aime bien aller un petit peu fréquenter des zones qu'il connaît moins bien. On est tous explorateurs. Et explorer dans la sexualité des choses qui nous font un peu battre le cœur, c'est une autre modalité de plaisir. C'est-à-dire quelque chose où on se dit, là, ça me plairait, mais j'ai un peu peur. Ça, c'est aussi une modalité de plaisir. Et puis l'autre, qui est aussi très importante, c'est le partage. Mais il faut bien comprendre, parce que là, il y a un danger dans le partage, c'est que, je vais le dire de façon vraiment brute dans la sexualité, hein, c'est, je suis avec ma partenaire, et ben, elle va avoir du plaisir, et moi, je ne m'occupe pas du mien. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. Sauf que si c'est par défaut de m'affronter à mes propres difficultés par rapport au plaisir, c'est faux. Si de temps en temps, je sais m'affronter à mes propres peurs dans la sexualité, et puis ce jour-là, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie, je veux bien donner du plaisir à ma partenaire, qu'elle aille dans son plaisir, puis moi, ce jour-là, c'est pas mon jour, ça va. Donc je veux dire que ça va pas être une fuite de son propre plaisir. Mais par contre, si on sait déjà aller dans ses propres modalités de plaisir et accompagner l'autre dans son plaisir, c'est extrêmement excitant. Que l'autre aille au sommet de sa jouissance, c'est extrêmement excitant parce qu'il y a une espèce de ping-pong qui se fait en immense confidence. La sexualité, c'est une confidence de qui je suis dans mon animalité, qui je suis quand je reviens à des choses essentielles qui est le plaisir. En tant qu'homme, donc en tant que mâle dans le monde animal, en tant que femme, en tant que femelle, et j'ai un grand respect pour ces deux termes et non pas du tout, il ne faut pas l'entendre comme quelque chose de péjoratif dans ma bouche, absolument pas. C'est un profond respect d'une animalité qui nous habite, qui est très pure, qui donne du plaisir et qui, dans le respect de l'autre, est que positive.
Que pensez-vous de la sexualité de nos adolescents en France ?
Alors, je dirais que le vrai problème, c'est qu'ils ont une très, très mauvaise image de la sexualité, grâce, je m'en excuse, aux médias, un peu à cause des médias, de tout ce qu'on voit là, de partout. Et c'est dommageable parce qu'ils ont de la sexualité que la dimension la plus basse et dans l'irrespect de l'autre. Et je crois que, par contre, ils sont très intéressés par... il se trouve qu'on m'a demandé d'aller dans un lycée où, vous voyez, il y avait quand même des jeunes qui allaient de 14 à 21 ans, donc pas des faciles. Et il m'en avait collé 150 pour être sûr qu'il profitait bien de ma venue. Donc, on y allait. C'est pas facile à tenir. Et j'ai eu un silence pendant une heure et demie. Vous voyez, donc, les profs n'en revenaient pas. Ça n'a pas été facile. J'ai bataillé, mais ça s'est fait. Et donc, je veux dire par là que les jeunes, les adolescents sont intéressés. Et ils sont intéressés par la vérité, pas par des ronds de jambes. Ils aiment bien entendre les choses qui sont. Et je pense que j'ai dû dire les choses comme il fallait pour qu'ils l'entendent, au moins ce jour-là. Je ne suis pas toujours très habile, mais j'ai dû l'être ce jour-là. Parce qu'ils ont été très touchés d'apercevoir une autre dimension de la sexualité et qui les attire finalement.
Oui, parce qu'on va rappeler quand même qu'en France, à l'éducation nationale notamment, les cours sur la sexualité qu'on donne à nos jeunes sont principalement des avertissements, de l'information purement biologique, mais attention, le sexe, ça fait mal, c'est dangereux. Voilà. Donc alors, quelle relecture du discours vous proposez là ?
Alors moi, j'ai réglé le problème de la façon suivante, parce que je savais que ça faisait partie du contrat, qu'il fallait que je dise ça, donc je leur ai dit, écoutez, je vais commencer par vous dire ce que je dois vous dire, je vais prendre 2 minutes, puis ça va aller très vite, puis en plus vous l'avez entendu 200 fois, donc ça va aller très bien. Donc je leur ai dit, voilà, j'ai à vous dire ça, que vous saviez déjà. Maintenant, on va passer à du sérieux. Et je passe à la suite.
Quelle réaction des profs présents ?
Ils se sont tous amusés, ils ont trouvé ça super.
Donc j'imagine que l'éducation a un grand rôle à voir avec sa sexualité. Ça s'apprend. On a un instinct, comme vous en parliez tout à l'heure. Par contre, la manière, elle nous est singulière. Mais cette notion d'échange, de plaisir partagé, on ne nous l'apprend pas, ça. Donc déjà à deux, je pense qu'on s'apprend. Mais pensez-vous que la sexualité s'apprend ?
Oui, je pense que ça s'apprend. On apprend à bien manger, on apprend à bien se reposer, on apprend à être meilleur parent, tout s'apprend. Je crois que le plus grand danger, c'est de ne plus vouloir apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un, pour moi, qui est en train de mourir psychiquement, c'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions, qui n'a que des certitudes. Moi, plus j'avance, moins j'ai de certitudes. Enfin, j'en ai un certain nombre, mais je trouve que le champ qui s'ouvre, que je ne connais pas, est beaucoup plus grand que ce que je connais. Et je pense que ce chercher, essayer de comprendre, fait partie de la puissance de la vie. Concernant l'apprentissage, je crois qu'on a un peu trop dans l'idée que quand on a été petit enfant, adolescent, on a appris des choses avec le métier, puis que tout d'un coup, c'est comme si on débarquait, puis que maintenant, on savait tout. Alors, on sait travailler, on sait vrai tout savoir-faire. Mais je pense que pas du tout. C'est-à-dire que quel que soit l'âge que nous avons, nous sommes toujours, toujours en train d'apprendre quelque chose. Et si on ne le sait pas, si on n'a pas conscience et si on ne sait pas ce qu'on est en train d'apprendre, eh bien, on perd quelque chose. En particulier, là, je change un peu de sujet, mais finalement, il est lié. Dans la parentalité, il y a quelque chose qui est très complexe, c'est que tout le monde s'imagine qu'on est parent naturellement, on n'est pas parent naturellement. Parce que si on était parent naturellement, ça se saurait. Et quand vous ouvrez les journaux, il n'y aurait que du bonheur entre les parents et les enfants. Quand vous ouvrez la télévision, il n'y aurait que du bonheur. Nous, on n'aurait aucun problème avec nos enfants. Moi, j'en ai eu, et j'essaie de faire tout ce que je peux. Et autour de nous, quand on voit comment ça se passe quelquefois entre les parents et les enfants, ça serait le grand bonheur. Ce n'est pas le grand bonheur. Quand on voit tout ce qui se passe pour récupérer des enfants qui ont été malmenés physiquement ou psychiquement, l'argent qu'on dépense, il faut arrêter le cirque. Quoi. Enfin, je m'excuse du terme, mais il faut arrêter de penser que c'est naturel. C'est une partie est naturelle et puis une partie, il faut que nous apprenions à être parents. Parce que quand on débarque dans ce monde et qu'on commence à avoir un enfant, on ne sait pas faire. En tout cas, moi, je ne savais pas faire.
Moi, j'avais de belles théories.
Oui, après la pratique, bonjour.
Je viens de voir un mot qui me saute aux yeux, le jeu.
Oui.
Source de plaisir.
Bien sûr.
On peut en parler ?
Bien évidemment. C'est sûr que la sexualité, c'est le jeu de l'adulte, quoi. C'est vraiment le jeu où nous devons être inventifs, comme des enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il lui passe quelque chose à travers la tête et il se dit « Ah ouais, ça me plaît, ça m'excite, ça me parle. » Et nous, quand on, cette petite voix en nous, ce que j'appelle la voix des envies, du plaisir dans l'instant, on la fait toujours taire. On la fait toujours taire parce qu'on a plein de choses à faire. On a des rendez-vous. Vous savez, le matin, quand on se lève à côté de la tasse de café ou de thé ou de je ne sais pas, on a un post-it avec marqué « Je dois aller à la banque, je dois mettre de l'essence dans la voiture, je dois payer mes impôts. » On a plein de « je dois ». Mais déjà, ces « je dois », on n'est pas très heureux avec, donc ils nous éteignent. Et puis, on a rarement la liste de qu'est-ce qui va m'éclater dans la journée. Et je crois que la sexualité est l'endroit qui essaye de nous dire « mais la vie, ça peut être un plaisir ». Et pourquoi le laisser simplement dans le domaine de la sexualité ? Et là aussi, ça me permet de rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas séparer la sexualité de la vie habituelle, de la vie de la journée du couple. Vous savez autant que moi que quand ça s'est mal passé dans la journée, quand on s'est engueulé avec son conjoint, on n'a aucune envie de donner son corps dans la sexualité le soir. On a une vieille rancœur qui nous reste sur le cœur et la réconciliation sur l'oreiller, j'y crois pas vraiment. On se donnera, mais moins. Peut-être que ça finira par régler les choses, mais pas vraiment. Et donc, je dirais que la sexualité, c'est un peu un résumé de comment nous avons été ensemble dans la journée. Est-ce que nous avons été bien ensemble dans notre couple, dans la vie quotidienne ? Est-ce que d'abord, à titre personnel, on est capable d'avoir un certain plaisir dans la vie quotidienne hors sexualité, c'est-à-dire déguster un instant de plaisir avec quelqu'un, comme je le déguste maintenant avec vous, comme prendre un café tranquillement sur une terrasse, non pas pour perdre son temps, mais parce qu'on déguste ce café, on déguste le soleil, déguster, voilà. Et donc, il faut apprendre à déguster l'instant présent. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des obligations et d'autres choses à faire, mais aussi savoir déguster l'instant présent, devenir un peu plus artiste du plaisir dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne. Alors on sera peut-être plus artiste dans la sexualité aussi.
La sexualité, c'est le reflet du couple en fait. Hein.
Bien sûr.
Allez, rappelez-moi le but de votre venue.
On parlera de sexualité lors de deux conférences. La première va avoir lieu ce vendredi à l'Aube, à Piégros-Laclastre, à 20h. Donc on peut se renseigner sur le site aube-association.com. Et le numéro de téléphone 04 75 40 03 24. 04 75 40 03 24. Et dans la région de Die, il y aura donc une conférence aussi le jeudi 6 décembre à 20h30 dans la SCI Habiter, Les Combes. Renseignements 06 63 44 81 41. Par contre, de toute façon, on peut venir sans aucun rendez-vous, sans rien, 20h.
Merci docteur N de toutes ces précisions. Nous voilà informés et surtout très curieux, en tout cas c'est mon cas. Je vous remercie de nous avoir fait confiance et je vous dis bon vent, bonne continuation.
Merci Aurélie, au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Ok, the bird.
L'interview du jour.